PSG sur France Bleu. Bruno Salomon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette tribune PSG, c'est votre émission en Facebook Live, on vous attend, vous et vos réactions, vos coups de cœur, vos coups de griffe sur les réseaux sociaux. Au sommaire, Paris qui rit, qui a le smile et qui fait voler en éclats Lyon 5-0. C'était hier soir un match, oui, il y a tellement à dire sur ce match entre une première mi-temps douloureuse et une deuxième étincelante où l'étoile Mbappé a brillé par 4 fois. Dans cette émission, on parlera du 9-9, record de la semaine folle aussi de Neymar, du retour du petit hibou, coucou Verratti, de ce PSG qui écrase tout, des supporters et aussi des remplaçants du PSG qui commencent à répondre présent avec moi ce soir dans l'ordre de passage. Mais oui, ne vous inquiétez pas, le studio ne va pas être vide trop longtemps. Émilie Ross, notre Queen Bee de cette émission, votre voix à vous les internautes. Tonton Stéphane, la mémoire vivante du PSG, Joss le youtubeur foot et rap, et enfin le copain de la bande du Parisien, Sébastien Nieto. Tout le monde est en train de s'installer tranquillement, et moi, pour lancer cette émission, je vous propose 4 buts en 13 minutes, enfin bon, un quadruplé en 2 minutes chrono. C'est parti.
Neymar qui va y aller, Neymar qui va sur 3 joueurs, Neymar ça va sur Kylian Mbappé, il va frapper,
oh oui, oh oh,
il a mis le plus difficile, c'est extraordinaire, incroyable. Ça tape le poteau droit, ça longe la ligne, ça tape le gauche et ça rentre, goal, la libération du Parc des Princes. Oh oui, Marco Verratti, servi par Neymar. Neymar, Verratti, le 1-2 est passé. C'est maintenant Verratti qui va faire un coup du sombrero à la surface de réparation. Regardez qui arrive, c'est Marquinhos. Marquinhos qui est servi par Marco Verratti.
Super! Qu'est-ce que c'est beau!
Mbappé sur un service de la part de Marquinhos. Et quelle joie de la part des Parisiens! Ils nous ont fait une célébration de basketteurs! Ils se sont élevés dans les airs, Marquinhos et Mbappé! Et boum, buffet contre buffet pour célébrer ce but! Allez, et regardez le ballon pour Neymar en profondeur sur le côté gauche.
Ah oui,
et envoyé pour Mbappé, le face à face, le cinquième face à face,
allez,
face
allez,
à face, c'est Mbappé!
Oui
le kit de Bondy qui est en train de faire exploser Lyon, le triplé, goal pour le Paris Saint-Germain, exceptionnel. Allez, Neymar en provocation, plein axe, face à Denayer, il a peut-être vu le départ de Thomas Meunier, c'est fait, qui va rentrer à la surface de réparation, allez, Thomas, face à face, ça revient sur Kylian Mbappé, peut-être pour quadrupler, il veut donner à Neymar qui va se retourner, la frappe, ça allez, revient
fini,
sur Kylian,
fini,
frappe,
oui, oh, c'est
bon, le quadruplé de Kiki, Kylian Mbappé.
Et alors, mon Eddy, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quand il y a du rouge, ça veut dire que ça parle. Salut à toutes et à tous, bonjour la team.
Bonjour.
Ah, il y a des sourires, il y a des, comme je le disais dans les titres, du smile. Bien sûr, 5-0 avec Kylian Mbappé. Vous venez de l'entendre, qui a tout cassé, mis sur orbite le Paris Saint-Germain. Et finalement, c'est un homme qui est à l'image de ce PSG, hein, après une première mi-temps un petit peu douloureuse pour le PSG, comme pour Kylian Mbappé derrière. Eh bien, ça a bien voulu sourire sur les réseaux sociaux. Émilie, c'est déjà partie, notre meuf de foot, Queen Bee, ça dégringole.
Eh ben, on est bien. Je pense que tout le monde est comme nous, là. Tout le monde est joyeux. Bon, alors, effectivement, on réagit aussi à tes goals. Il y a Alexandre qui nous dit, j'étais à Auteuil Rouge. Et de là, on entendait Bruno crier.
Oui, alors là, il est un peu de Marseille. Enfin, je veux pas, voilà.
Mais Alexandre, bon, ne tire pas rigueur de ses propos. Et Olivia qui dit, j'aime ton goal, Bruno.
En tout cas, merci aussi à Jérémy, à Baba, à Alexandre, qui, Chris aussi, qui nous annonce et qui nous font des petits coucous à la team. Je vous rappelle, Joss, Sébastien, Tonton Steph et Émilie sont avec nous. Et on va parler bien sûr de cette rencontre tout de suite, puisque je sais que ça fait un gros carton pour le premier livre que l'on a fait gagner. Eh bien, on va le faire regagner. Éric Froisot, Neymar, le prince du Brésil. Moi, j'aurais titré plutôt le patron du PSG. Voilà, on va en parler dans l'émission, en deuxième partie d'émission. C'est deux exemplaires, effectivement, t'inquiète pas. Mais Neymar, pour le prince du Brésil, préface de Thiago Silva, vous partagez un maximum l'émission. Et on fera le tirage au sort cette semaine pour ce livre d'Éric Frozio. On aura l'occasion d'en parler de Neymar en deuxième partie d'émission. Et on se posera cette question, est-ce que ça a été la semaine du patron, finalement, entre Belgrade, où il a marqué un triplé, et entre hier soir, où il a régalé, parce que c'est quand même, oui, Kylian a brillé, mais Neymar a quand même fait du boulot. Il l'a bien aidé, effectivement. Et puis il a fait le patron aussi. Il y a plein de choses, il y a plein de petites choses que j'ai beaucoup aimées de la part de Neymar Junior sur la pelouse. On va d'abord parler de Kylian côté pile et Kylian côté face. Ce Kylian qui, autour de la table, et vous, derrière votre ordinateur, et je veux déjà des réactions, qui n'a pas voulu tirer les oreilles de Kylian Mbappé jusqu'à la 60e minute de jeu
hier soir, c'est trop drôle parce que bon, on connaît les réseaux sociaux, on sait que le moindre petit tweet peut être déformé, et lors de son troisième raté face à Lopez, j'étais à deux doigts de tweeter, je suis retenu et je me suis dit bon, non, je vais pas le tweeter, et cinq minutes après c'était le festival. Donc ouais, il nous a bien surpris hier quand même.
Tonton, pareil, t'avais envie de t'arracher les cheveux.
Oui, je discutais même avec les confrères du Parisien qui étaient assis juste à côté de moi et on disait, mais qu'est-ce qui se passe depuis qu'il est revenu? Il est pas bien. Ben voilà, on a vu la suite, à partir de la 60e, tout s'est déclenché. Mais dans l'échange, on disait quand même qu'à tout moment, il était capable de se réveiller. On pensait que ce serait peut-être au match suivant et ça a été dans les minutes suivantes.
Émilie, déjà, ça réagit sur Kylian Mbappé.
Ça réagit en disant que forcément un bon Mbappé. Et on parle aussi de Neymar. Il y a tout le monde hein, qui prend des bons points. Je pense que tout le monde est de toute façon ravi. Et il y a Mathieu qui nous dit, peut-on dire qu'hier, l'Olympique Lyonnais s'est fait Mbappérisé.
Et Samuel qui nous dit quand il marque son premier but et qu'il se frotte le maillot, on a l'impression qu'il s'enlève une malédiction. Ouais,
il se lave, effectivement, de
ce qui s'est passé, Sébastien. Parce que avant la 60e, la 61e et les 13 minutes qui suivent derrière, avant, il y a eu des ratés, il y a eu même des mauvais choix.
Il frappe et puis il touche le poteau au lieu de trouver Neymar sur la gauche. Il y a eu des face-à-face ratés. Après, il faut peut-être se rappeler aussi du passif qu'il avait avec Anthony Lopez. Je me demande si ça n'a pas un peu joué aussi dans ces duels. Voilà, on se rappelle qu'il s'était fait rentrer dedans par Anthony Lopez un peu violemment l'été dernier.
Encore une fois,
il lui est sorti complètement gratuite, qui mérite une sanction peut-être.
Exactement, et il coûte cher à son équipe, ce garçon, à un moment.
Face au Paris Saint-Germain.
Mais bien sûr, mais évidemment. Et puis, mais c'est une brute. Non, mais franchement, mais c'est vrai que c'est pas un gardien.
Je me demande vraiment si ça joue pas.
20e gardien de Ligue 1 derrière ça.
Je trouve que c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, mais trop violent.
Oui, mais trop violent, mais à un moment, il perd ses nerfs à chaque fois, ou quasiment. Ouais. Il est à l'origine de plein de bagarres.
Très hasardeux. Elles sont très hasardeuses. Souvent, quand il joue contre les grosses équipes, on l'a vu l'année dernière, enfin c'était l'année dernière, enfin c'est janvier. Mbappé, voilà, enfin c'est très hasardeux et en plus brut. Mais pour revenir sur Mbappé, c'est un mental de champion qu'il a, c'est vraiment un très très gros mental. C'est pas parce qu'il rate que justement tout s'effondre. Et justement hier, il a prouvé que c'était un grand joueur et surtout ses statistiques sont incroyables. Il a quand même manqué 3 matchs de Ligue 1 et il est quand même dans le top.
Il joue 4 matchs et demi de Ligue 1.
Et il est déjà meilleur buteur. Bah, oui. Émilie, tu réponds, tu regardes ce qui pas, ça dégringole en fait depuis tout à l'heure
et juste moi pour réagir sur Mbappé, la première mi-temps effectivement il m'a gonflé, mais plus dans son comportement. Qu'il rate des choses, c'est une chose en l'occurrence, mais quand tu vois que c'est Neymar qui le rebooste en disant hey, mon gars, on remonte là, arrête de baisser la tête et de te plaindre. J'ai trouvé qu'il avait des fois, en première mi-temps, un comportement enfantin et c'est ça qui était énervant. C'est pas le temps qu'il rate, il nous a fait des Cavani, c'est plus le comportement. Et après, une fois qu'il enchaîne, tu te dis mais c'est le sale gosse, quoi.
Il est
encore
jeune.
Sauf que c'est un gosse. Il ne faut pas l'oublier.
Donc il a les performances. Un peu trop, 19 ans et 9 mois.
Ben voilà, exactement. Donc il a encore, des réactions. Mais c'est comme la suspension. Dans 5 ans, j'ose espérer qu'il ne prendra pas 3 matchs comme ça et que si Savagnier lui met des coups, il saura ou se maîtriser ou lui en mettre de façon plus discrète.
On oublie aussi son âge parce que c'est le premier à dire qu'il faut oublier son âge et qu'on ne doit pas parler de son âge et que de ses performances. Non, vraiment, hier, il a eu un mental de champion. Il faut aussi souligner le comportement de Neymar, qu'il n'a pas lâché tout le match, comme tu le disais, Émilie, qu'il l'a encouragé, qu'il a continué à lui donner les caviars pour l'envoyer face au but.
Et il lui en a donné.
Ça a été un vrai festival.
Et justement, j'ai une petite pensée. Tu parlais des tweets qu'il ne faut pas faire. J'ai une pensée pour l'un de nos internautes fidèles qui s'appelle Bourru. Et sur Internet, lui, il a craqué. Il a mis le message. Il nous a dit, et si pour piquer Mbappé, à la 59e, il fait ça. Et si pour piquer Mbappé, on changeait et on faisait rentrer Choupo-Moting. Bon, Rico Rabé-Santana a dit, à tout moment, ça peut basculer. On va peut-être pas s'en marquer là-dessus.
En parlant de changement, il y a un fait qu'il faut aussi noter, c'est que Thomas Tuchel, au moment où Kimpembe se fait exclure, il sort pas Mbappé. Il aurait très bien pu sortir Mbappé pour laisser Cavani.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis.
Et il le laisse, Mbappé.
Je me suis posé des questions pour la suite. C'est terrible parce que j'adore Cavani, c'est même mon préféré.
Mais le sacrifier des trois.
J'ai trouvé que Paris avait une mobilité, une façon de jouer en profondeur et Neymar.
On l'a défendu Cavani dans cette émission.
Grave, mais Neymar et Mbappé, ça marche comme c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que je pense que Tuchel, il est pas aveugle et il a vu des choses hier. Et il a vu que sans Cavani, bon là qui a été sacrifié parce que Kimpembe était sorti, il fallait rééquilibrer la défense. Mais j'ai trouvé que Paris tournait quand même sacrément bien sans lui et ça m'inquiète.
Joss réagit et ensuite on va sur les réseaux sociaux.
Paris tourne mieux sans Cavani, faut se le dire.
Il faut se dire
les choses et puis même faut voir le comportement des joueurs. On reproche toujours à Neymar de pas faire de passe pour son avant-centre. Bah hier quand c'était Kylian qui était numéro 9, je l'ai jamais vu aussi content de faire des passes décisives à un joueur. Donc à un moment donné, faut se rendre à l'évidence, il y a un problème Cavani. Mais c'est secondaire hier soir parce qu'effectivement il y a une grosse prestation du PSG. Mais si on revient vraiment dans les fondements, il y a un problème Cavani.
Et juste rappeler que le seul joueur qui n'est pas allé faire la fête avec les supporters, on en parlera tout à l'heure de ce moment d'échange entre les supporters et les joueurs, il manque un joueur sur la photo de famille, même les remplaçants, même Adrien Rabiot en tenue civile et Lévin Kurzawa ou encore
magnifique.
Au début je me suis dit mais c'est qui,
ils étaient au Qatar,
ça valide
le flotton ou pas,
easy là franchement.
Émilie, ça réagit sur les réseaux sociaux.
Il y a Morgan qui nous dit Neymar a été énorme en 10. Drick nous dit meilleur buteur Mbappé avec Neymar. Ibou dit que même Bernat commence à prendre confiance et il le kiffe pas mal. Donc Ibou, on est content que
Bernat. Il a de la technique.
On va en parler.
Défensivement, Traoré lui a fait mal. Enfin, offensivement, il était...
On va en parler, ne vous inquiétez pas.
Et
gardez
après,
un petit peu de discussion.
Il y a effectivement des commentaires sur Cavani. Alexandre nous dit on est déçu pour Cavani. Jérém dit Cavani décevant personnellement. Et Jocelyn dit Tourelle a clairement annoncé que l'avenir est Neymar et Mbappé et plus Cavani.
J'ai vu hier où ça pêche pour Cavani, c'est techniquement.
Techniquement, mais
voilà.
C'est simple.
En fait, c'est un renard des surfaces et il est capable de mettre des buts de n'importe quelle position du corps et ça, aucun des deux autres n'a ça, mais dans la construction du jeu, techniquement, il est beaucoup plus limité que les deux autres, faut le reconnaître.
Trop limité,
objectivement. Et à un moment, ça pose problème.
Il y a un gouffre avec les deux autres. On a beaucoup parlé l'année dernière du trio de Liverpool, notamment Firmino, Salah.
Le roi.
Et Salah, pardon. Et c'est vrai que Firmino a un rôle qui est totalement différent de celui de Cavani au milieu de ce trio d'attaque-là. Il sait distribuer aussi le jeu.
Parce que Cavani ne sait pas faire, parce que c'est pas un vrai neuf.
Et c'est peut-être ce qui va pêcher pour le PSG.
En tout cas, ça dit encore des choses sur Cavani et sur Mbappé aussi.
Ouais, il y a des commentaires différents. Il y a Morgan qui nous explique que ce n'est pas sans Cavani. C'était à 10 contre 10. Il n'y avait plus d'espace, donc il fallait faire des choix. Et il y a Chris Mir qui nous dit on ne gagnera jamais la Ligue des Champions sans Cavani.
Bon, bah ça n'a pas gagné avec tant plus. Il est là, donc c'est parfait. Non, mais oui. Là, on pinaille un peu, mais on se rend compte des fois de certaines situations, de certaines choses. Voilà, et Dieu sait qu'on adore Cavani, et je suis le premier à le défendre. Mais c'est mon préféré dans l'investissement, dans ce qu'il a donné au club. Rien que pour ça, il ne faut pas y toucher. Mais on peut quand même remarquer et voir des choses quand on aime le foot et quand on le connaît un peu. Et là, il y avait des choses un peu flagrantes et un peu criantes. Et c'est dommage.
17h45, vous êtes dans Tribune PSG en Facebook Live. Et pour ceux qui reprennent l'émission en podcast, bien le coucou aussi. Je vous rappelle que si vous partagez l'émission sur les réseaux sociaux, eh bien, vous avez le livre de Neymar à remporter aux éditions Solar. Neymar, le prince du Brésil. Préface de Thiago Silva, écrit par Eric Frosio. Juste pour rester sur la cote Mbappé, parce que alors là, aujourd'hui, dans les grands médias nationaux, on a redécouvert le football. Vous savez, ces tranches entre midi et deux, où tiens, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Eh ben tiens, sur les grandes stations, on a parlé d'Mbappé parce que ce phénomène Mbappé, un peu comme des piqûres de rappel. Et puis alors, comme par hasard, la piqûre de rappel, elle tombe au moment, tiens, où la liste des ballons d'or est en train de tomber.
Un sujet qui va plaire à Stéphane.
Ah bah oui, mais de toute façon, ah bah moi je tonton Steph, depuis 4 émissions, il l'a annoncé, il a planté le drapeau, il a dit, il va être ballon d'or cette année.
Et je vous le confirme. Il va être ballon
d'or cette
année.
C'est vrai que ce match va compter. Un quadruplé à la veille de l'annonce de la liste. Les votes débutent aujourd'hui. Ils se termineront le 9 novembre d'ailleurs.
C'était un match qui a été diffusé dans pas mal de pays d'Europe parce que c'était l'affiche de la Ligue 1.
Ils en ont parlé dans
la Ligue 1 met en avant.
De grands médias aussi.
Bien sûr.
Ça va compter, c'est sûr.
Et si vous regardez la presse ce matin à l'international, il y a même, je crois que c'est au Brésil, il y a un titre, c'est Mbappé-lé. Tout est dit. Voilà, c'est la contraction d'Mbappé et de Pelé.
S'il y a bien une chose sur laquelle je suis d'accord avec tonton Steph, c'est sur ça.
C'est que ça va passer.
Ouais, le ballon d'or. Enfin,
s'il continue des prestations XXL comme ça, c'est pas possible de le donner à quelqu'un d'autre. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en ce début d'année, les top joueurs ne sont pas
C'est sur 13 minutes la prestation de l'enfant, là.
Non mais
je sais pas, je demande.
Tu vas pas nous réduire sa saison à 13 minutes.
Je demande sur 13
minutes. Je rappelle quand même qu'au cours du mois de juillet, il s'est quand même pris un titre que des millions de mecs ont rêvé dès qu'ils ont mis le pied devant un ballon.
Il a pas forcément fait voir une bonne image du côté de Nîmes. Il prend trois matchs de suspension.
On parle d'un match contre un concurrent direct.
J'en suis conscient. Je viens juste dire qu'il y a des petites choses. Mais oui. Tu veux que je fasse quoi? Sinon, on ferme l'émission.
Là-dessus, il fait un match XXL contre l'Argentine. C'est pas passé inaperçu.
C'est le meilleur joueur français.
Mais évidemment, à la Coupe du Monde.
Il porte l'équipe de France.
On écoute Sébastien.
Tous les journalistes qui votent. Même s'ils connaissent très bien le football, ils ne regardent pas non plus tous les matchs de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, qui ratent aussi des matchs, qui ne font pas des matchs parfaits pendant 90 minutes. Ce qui va marquer, c'est ce quadruplé. Il marquait en 13 minutes, c'est impressionnant. Ce qui va marquer, c'est l'Argentine. Voilà, c'est ce début de saison complètement fou. Encore une ou deux prestations comme ça en Ligue des Champions contre Naples dans les prochaines semaines. Alors Liverpool sera un peu tard parce que c'est le 28 novembre et les votes s'arrêtent le 9. Mais voilà, encore une ou deux prestations comme ça européennes, forcément, il peut le prendre.
On retourne sur la toile. Émilie, là aussi, ça réagit sur le ballon d'or.
Ça réagit, mais on nous peut. Alors, sur le ballon d'or, oui, tout le monde est d'accord, ok, pas de problème, ballon d'or, mais ça réagit pas que sur ça, en fait. On nous pose beaucoup de questions pour avoir vos réactions sur Kerrer. Sur l'entrée du joueur et effectivement sa prestation, parce que effectivement il y a Ludovic. Et d'ailleurs, Ludovic nous suit d'Ottawa au Canada. Il nous demande
cette tournée au Canada, ça va être formidable.
On n'arrête pas.
À Québec City, à Montréal, à Ottawa, on va être bien.
Et il y a Ayoub aussi qui nous dit il faut absolument parler de Kerrer.
Oui, il faut parler.
À poser ou pas?
Bien sûr, sans problème. Je viens de la famille à Montréal en plus, donc ça va.
Ah, très bien, les appelles, faudra peut-être nous loger pour faire réduire les coûts.
Apparemment, ils en ont la possibilité.
Et Neymar aussi. Pour parler de Kerrer, je vous propose. Oui, je sais, je suis un peu le chef de gare. On va parler des remplaçants. Ne vous inquiétez pas, on va en parler des remplaçants dans cette émission. Un petit mot quand même sur Kerrer qui effectivement.
De mieux en
puissance.
Mieux.
Mais en fait, il était à son poste hier.
Exactement. Voilà. Tout simplement.
En fait, en gros, défenseur gauche, on a compris que c'était son poste. Et là, il est bien.
Mais déjà, à Nice, il avait été pas mal. On
est d'accord.
Ensemble. À Nice, il avait déjà fait une bonne prestation.
Il s'était juste raté son tout premier match. Voilà.
Et après, ça.
Mais après, depuis, il monte.
Exactement.
Mais lui aussi, 21 ans, je pense que, il a montré qu'il avait du potentiel, que Paris s'est pas trompé. C'est un bon plan.
Sur l'ami Kylian Mbappé, on s'arrête là ou il y a quelque chose à rajouter? Les records.
Qu'une envie, c'est de revoir tout ça.
C'est clair qu'on a envie et qu'on a envie de le revoir dans cette.
Pour finir sur Mbappé, rappelle-toi combien de fois il a été décisif dès qu'il est revenu après la Coupe du Monde. Parce que t'oublies, mais il y a eu, je crois, Guingamp, il y a eu.
T'as pas aimé mon avocat du diable.
Je veux juste dire que sa saison ne se résume pas à 13 minutes, mais à toute une saison où il a été brillant. Et finalement, sur la durée, c'est probablement lui.
Alors, je vais continuer. Alors, 3 secondes, on l'attend sur un match de Ligue des Champions. Oui. On ne l'a pas encore vu en 2018 avec le Paris Saint-Germain.
Mais il marque à Liverpool. Même si son match est raté, qui marque? C'est lui.
Bien sûr.
C'est quand même un atout.
La Ligue des Champions, elle commence là. Tu peux pas, après un déplacement à Liverpool et un match contre l'Étoile Rouge. Au parc, laissons passer Naples, laissons passer encore 2-3 pointures, revoyons face à Liverpool. Et puis, bah, là, on saura où il en est, vraiment. Et s'il est capable. Et Milan est capable. De toute façon, ce qu'il montre, j'ai aucun doute là-dessus.
Okay.
Voilà. À mon avis, il est bien supérieur à Griezmann. On peut, on peut le mettre.
Oui, ça, on est
mais il y aura des débats.
Je vous explique, quand on discute foot en dehors du micro, il a encore sa page sur.
Non, j'adore Griezmann, attention. J'adore Griezmann, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence.
Oui, je suis d'accord.
Il faut se rendre à l'évidence, il faut dire les choses. On aime nos joueurs français, mais le meilleur joueur français actuellement, et même le meilleur joueur du monde actuellement, c'est Kylian Mbappé.
Bien sûr.
On arrête là-dessus.
Ici, c'est.
Paris. Merci Nasser de le rappeler. Le championnat est-il plié? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, voilà, il fallait la poser. Hein. Mais on a 9 journées. C'est de poser la question à 9 journées qui est un petit peu bizarre.
J'ai l'impression qu'il faut apprendre la table de 3, parce que je vois, chaque journée, ça avance de 3 en 3. 9 fois 3, 27. Voilà, et 10 fois 3, 30.
Émilie, les résultats sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on a posé la question à nos internautes. Allons-y pour les résultats. J'ai l'impression que...
Alors, on a eu plus de 800 participants à ce sondage et effectivement, à 88%, est-il plié? Oui. Y a-t-il encore du suspense? Non.
Voilà, c'est comme ça. C'est très clair. Pas de suspense, effectivement.
Là, il faut rappeler qui était l'adversaire du Paris Saint-Germain hier soir. C'était quand même l'Olympique Lyonnais. Si on avait...
Troisième budget de France.
Avant le début de la saison, si on avait dit il y a une équipe qui peut peut-être un peu embêter Paris, c'est Lyon. Ils en prennent 5. C'est eux qui en prennent le plus.
Ils ont les défenseurs.
Et puis Lyon se plombe tout seul avec l'exclusion de Touzard.
En
parce
plus,
ils ont quand même été supérieurs une mi-temps. Ils sont supérieurs une fois que le PSG se retrouve à 10. Et derrière, Touzard les plombe complètement. Touzard, c'est déjà la deuxième exclusion qu'il a pour Lyon.
Il
n'a
pas de serveur. Il fait un début de saison très compliqué.
C'est quand même terrible.
Non, mais c'est terrible. Alors, Anthony Lopez vient de prendre une petite couche.
Mais
derrière Touzard, la deuxième.
Non, mais franchement, en plus, les deux moissonneuses-batteuses qu'ils ont là, Deneyer et.
Attends, Deneyer, il n'est pas mauvais.
Il n'est pas mauvais, mais enfin, il n'a pas un gabarit de footballeur. Il s'est trompé.
Oui.
Mais c'est
un côté
américain.
Allez, hop là, bim.
On a dit pas le physique, tonton.
Jean-Michel Aulas va répondre.
Non, Deneyer, il a été intéressant hier. Celui qui a vraiment plombé la défense lyonnaise, c'est malheureusement Morel, qui était complètement dépassé sur les accélérations de Kylian. Et tout ça, effectivement, qui fait un début de saison.
C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas mis Marcelo.
Il y avait un petit problème physique. Mais juste pour la petite anecdote, juste avant le match et de prendre l'antenne, Eric Rabessan, l'internat, notre consultant, voit la compo. Il fait Oh, chouette, il y a Morel, c'est fait, on a gagné.
C'est ça, voilà.
C'était réglé. Sur ce championnat, le suspense flingué, plus de.
Non, franchement.
Non, mais il y en avait des. Enfin, honnêtement, je pense qu'il n'y en avait déjà pas.
Non, mais regardez
le championnat.
Mais regardez même le classement.
Et là, quand on voit les résultats, oui, c'est
impressionnant. Oublions Paris,
c'est
le classement est plus que surprenant.
Alors, il y a quand même Lille. Il y a encore Lille qui est à 8 points qu'on n'a pas encore joué.
Bah, Lille va être champion de France de pas Paris Saint-Germain.
Ouais, Lille, ils font leur propre championnat. C'est vrai qu'ils ont une équipe très intéressante.
Ils ont été bons contre Saint-Etienne.
Ouais, un très très bon collectif. Mais à voir sur la durée et puis à voir aussi face au PSG. Mais je vois pas Lille inquiéter le PSG cette année.
Ils les reçoivent, je vous rappelle, le vendredi 2 novembre. Vous pourrez suivre ce match sur l'antenne de France Bleu Paris à 20h45. Émilie, sur les réseaux sociaux.
Oui, alors justement, parlons de Lille. Il y a Globule qui nous dit, si le PSG bat le LOSC dans quelques journées, ce sera définitivement plié.
C'est bien parce qu'on dit ça à chaque journée.
Tout le temps.
S'ils battent Lyon, ce sera plié. S'ils battent Amiens, eh ben ils battent...
Attention avec Amiens.
Attention, les gars.
Jusqu'au
Picard. Et il y a Venom qui nous dit PSG Lille, il y a quand même pas de suspense, les gars. Ouais. Alexandre nous dit, il y a quand même du suspense pour la seconde place.
Au final,
c'est surtout là que ça se joue.
Voilà, c'est ça.
Et Jocelyn nous dit suspense pour les 100 points et peut-être taper le record de Nantes avec 24 matchs sans défaite.
Effectivement. Ça peut être intéressant. Et je pense que ce PSG.
Ah non, Nantes, c'est pas 24, c'est 32 matchs.
Ouais, c'est 32 matchs.
Et une saison avec une seule défaite, je crois.
C'est ça.
Ça, c'est accessoire.
Oui, bien sûr.
Moi, je considère que c'est important parce que c'est bien de marquer l'histoire, mais ça reste quand même très accessoire. La question est de savoir qui va inquiéter ce PSG. Alors oui, ils vont peut-être perdre des matchs. Peut-être qu'ils perdront à Marseille le Classico. Peut-être qu'ils seront accrochés par des équipes en Ligue 1. Mais vous avez vu la marge qu'ils ont sur les... Là,
s'ils
viennent de battre consécutivement Nice 3-0 à domicile.
Ils perdront pas Marseille.
3-0 à Nice, 5-0 à domicile contre Lyon.
Tu parles de Marseille qui a fait 2-2 avec Limassol? Oui.
Tu te souviens du classico de l'année dernière?
Évidemment. On passerait presque pour des rigolos si ici on annonçait qu'il y a danger quelque part en France pour le Paris Saint-Germain. Non mais attendez,
c'est vrai.
Franchement là, le gouffre s'est creusé. Maintenant qu'en plus Neymar a retrouvé sa forme barcelonaise
et que Tourelle leur demande d'être constant.
Il y a un bon entraîneur, il y a un Neymar qui est revenu, il y a Mbappé qui est mondial, franchement, et Thiago Silva qui est toujours super bon derrière et qui tient bien la baraque. On le dit pas assez, ce mec est génial, je l'adore.
Buffon aussi, hier, qui Buffon fait un match
très bien, et quand c'est pas Buffon, c'est Areola. Bref, il y a tout pour vraiment dérouler dans, en tous les cas en Ligue 1.
Émilie.
Et il y avait nommé Sébastien quand même qui nous rappelle qu'il va y avoir des classicos à jouer. Et ça, faut pas quand même l'oublier.
Oui, mais ouais. Ça, c'est pour les supporters.
Ouais, mais sur l'intensité.
Après, derrière, on peut en parler. Effectivement, face à Marseille.
Mais ça va être un vrai test.
C'est un vrai test. Et en plus, on se rappelle que l'an dernier, Neymar et Mbappé ont été à côté de leur pompe. D'accord. Ils ont été nuls sur ce match-là.
Ils ne le feront pas deux fois. Ils nous ont peut-être déçus, mais ils se sont tellement bien rattrapés au retour avec 3-0, 3-0 en 3 jours. Je te mets ça le dimanche, je te remets ça le mercredi. Au revoir, messieurs.
C'est vrai.
On n'est plus dans la même catégorie, il faut arrêter. Non, mais attendez.
Ah, d'accord.
Émilie, si je disais ici, c'est une angoisse, on va se déplacer à Marseille, je sais pas. Adil Rami, il viendra directement avec les Parisiens. Il rentrera de Pamela, donc il viendra.
Bah oui, de Danse avec les Stars, bien sûr.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passe?
Pardon, je me marre tout seul, mais il y a Loïc Holling qui nous dit la seule vraie question. Et de savoir combien de matchs tiendra Bruno avant de finir à la Salpêtrière.
c'est ça. Arrêtez-vous à 5 buts parce que là, sa voile va pas tenir.
C'est 11 buts en une semaine, ça va pas le faire très longtemps. Effectivement, pour l'instant, ça tient. Les cordes vocales sont de retour. Je viens de mettre le 9 sur 9, bien sûr. Est-ce que c'est un record important?
Ah oui.
Sébastien. Et après, Ponton. Non, et après, Chausse.
Pour moi, c'est très accessoire, mais je trouve ça toujours bien qu'une équipe inscrive son nom dans les livres d'histoire.
C'est
un
record d'histoire. C'est 81 ans.
Ça veut dire quelque chose.
Ça, je suis d'accord.
Ça veut dire quelque chose.
Mais ça veut dire quelque chose sur le niveau du PSG et aussi sur le niveau du championnat. Moi, je connaissais pas le niveau du championnat de 1936 parce que peut-être que toi, tu t'en rappelles.
Merci, bonsoir.
C'est à l'époque où ils m'ont donné ma carte vermeille, donc je m'en rappelle très bien.
Non, mais évidemment que ça veut dire quelque chose sur le PSG, mais aussi sur le championnat qui est quand même, voilà, on l'a déjà dit ensemble ici, qui est quand même très très faible et largement à la portée du PSG. Donc pour moi, ça reste vraiment accessoire quand même comme record.
Alors juste une chose pour les records. Donc là, on est sur un 9 sur 9, donc record français battu.
Il reste les 10 de la Roma et du Bayern.
Ah oui, alors le problème, et je le salue, il y a Michel Collard, notre ami historien du Paris Saint-Germain, qui a repéré un Tottenham 60-61. Avec 11 victoires consécutives en championnat. Donc il va falloir regratter les livres d'histoire, parce qu'effectivement il y a un flou. Il y a le Bayern 2015-2016 et la Roma 2013-2014 qui sont sur 10 victoires de suite. Et là on pourrait égaler un record européen, mais il y a un Tottenham 60-61. Faut que tu regardes.
C'est la Roma de Rudy Garcia en plus, non?
C'est ça, tout à fait.
Il y a aussi une autre équipe cette année qui est en train d'enchaîner les victoires. C'est la Juve de Cristiano Ronaldo qui est déjà à 8 victoires d'affilée pour débuter son championnat et voilà, qui pourrait déjà égaler le PSG.
Je trouve que c'est pas anodin ces records, parce que ça prouve quand même que Paris ne se contente pas seulement de gérer. Mais en plus, à chaque fois, ils vont chercher la victoire.
Mais tu sais ce qui m'impressionne le plus dans ce record-là, moi, c'est pas tant les victoires, mais c'est les buts marqués. Parce que là, en plus de ça, ils sont à au moins 3 buts marqués par match depuis le début de saison. Et ça, pour moi, ça va encore dire
ils sont à 32,
quelque chose de plus. C'est plus significatif encore. Parce que c'est-à-dire qu'ils y sont allés. Contre Lyon, ils se sont pas arrêtés de jouer à 3-0, à 2-0. Ils y sont allés jusqu'au bout.
Non, je suis tout à fait d'accord.
Il est d'accord. Et Émilie, sur les réseaux sociaux, les records.
Les records, si on se pose des questions aussi, en se disant avec Tourelle, on ne lâchera aucun match contrairement à Emery. Après, il y a Alexandre qui nous dit 10, 11, 12, on s'en fout, on fera 38 victoires s'il le faut. Ici, c'est Paris ou pas.
Le pire, c'est qu'il pourrait le faire. Il pourrait le faire.
Vu son discours hier, j'ai la sensation qu'en fait c'est pas un entraîneur qui va lâcher quoi que ce soit. Il l'a dit, quand les joueurs ont le ballon, on attaque, et quand ils l'ont pas, on attaque aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un gros pressing qui a été fait hier sur les Lyonnais, et ils sont sortis du terrain fatigués.
Parce que oui, dans cette rencontre, il faut quand même le noter, on l'a pas dit assez sur cette première demi-heure, il est 18h dans Tribune PSG, mais il y a quand même eu une première mi-temps un petit peu compliquée. Le PSG a été gêné, ce PSG est tombé sur le Lyon de Manchester City qui a pressé haut, qui finalement a pris le ballon, qui a fait plus de 61% de possession de balle.
Mais en même temps, avec un début de match compliqué aussi. Enfin, début de match, il était un peu pété.
Ils sont tous pétés, expulsés, etc.
Mais c'est toujours pareil, en fait. C'est le problème de ces équipes-là, c'est de savoir combien de temps ça peut durer. À City, ça a tenu parce que, voilà, City, c'était pas non plus aussi l'équipe type, il y avait pas mal de remplaçants. Lyon était vraiment en sur-régime, mais face au PSG, qui a un pressing très important, on a très vite vu, que ça a pas tenu. Et justement, je dirais même que dans ce pressing que demande Tourelle, des fois, il y a des excès d'engagement, notamment Kimpembe.
Effectivement, Kimpembe qui a pris cette expulsion.
J'ai trouvé ça dommage.
C'était dommage.
Parce que c'était pas vraiment nécessaire.
Pas du tout.
À l'endroit où il le fait, il y a encore un peu de marge.
Et c'est la première fois qu'on le voit faire ça. Mais c'est ça qui est un peu étonnant.
Je pense qu'il a craqué, mais il n'y avait pas de raison.
Oui, voilà, c'est ça. Qu'il fasse ça à l'entraînement.
Est-ce que Ndombele n'a pas été aussi la cible? C'est-à-dire que, est-ce que dans le discours de Tourelle, c'est lui la plaque tournante?
Parce que sa course, elle était hyper propre. Ouais, je pense qu'elle était énervante.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai vu dans le geste, enfin, c'est que ma lecture, dans le geste de Kimpembe, une chaperon, quoi, tu vois.
Quand il est sorti, il a même eu une BPT, quoi.
C'était pas une façon de lui dire bienvenue à Clairefontaine ou quelque chose comme ça?
C'est ça, on pouvait se dire bonjour.
Peut-être aussi.
On se retrouve.
On va en parler aujourd'hui.
Voilà, tranquillement.
Par contre,
coéquipier.
Quel dommage de ne pas avoir ce Ndombele du côté du Paris Saint-Germain.
Peut-être l'année prochaine.
Ouais. Alors juste, son agent, c'est le fils de Luis Fernandez, si mes infos sont bonnes. Donc ça va être un petit peu compliqué.
Ah ouais. C'est pas gagné,
ouais. Ça pourrait être un peu compliqué, vu ce qui se passe en ce moment pour Luis Fernandez, du côté du centre de formation.
Il se passe rien, justement.
Il se passe rien.
Il se passe rien, donc il se passe pas... des choses négatives, mais rien, ce qui devient négatif.
On a parlé de Thiago Silva, mais ça, on en parlera peut-être, pourquoi pas, la semaine prochaine. Mais quand même, j'ai envie de parler d'un garçon qui, sur les deux matchs, Belgrade et Lyon, j'allais oublier Lyon, Jean-Michel, excuse-moi. Les deux matchs, Lyon et Belgrade, oui, il y a Neymar, on en parlera en fin d'émission, mais on a eu aussi quand Marco va, tout va, pour le Paris Saint-Germain, c'est quand même pas la même tête quand on a Marco Verratti en forme, sur le terrain. Pour moi, il est dans le top 3 des joueurs. Il y a Mbappé, Neymar, il y a Verratti.
Moi, je suis 100% d'accord avec toi à partir du moment où on se retrouve à 10 contre 10 hier. Avant, je trouve qu'il a quand même aussi souffert, comme Marquinhos face au milieu de Lyon. Et j'ai quand même peur que ce milieu-là reste faible face à un milieu niveau Ligue des Champions.
J'aurais bien dit qu'il manquait quelqu'un, mais je ne veux pas le dire.
On a déjà parlé de l'absence au milieu de terrain. J'attends quand même de voir la doublette Verratti-Rabiot. À Naples, contre Naples et ensuite contre Liverpool au Parc, voir si ça tire vraiment à deux comme ça en Ligue des Champions. J'ai quand même encore un peu de
Je te trouve un peu dur avec Marquinhos, que moi j'ai trouvé plutôt bon hier.
Il a été meilleur. C'est son meilleur match comme milieu.
Exactement.
Comme
milieu. Je trouve qu'hier il a vraiment eu des déplacements intelligents. Il a fait preuve de beaucoup d'anticipation. Moi, c'est sa force en tant que défenseur. Et hier, je trouve qu'il a vraiment rassuré.
Ouais, il est monté d'accord. Je suis d'accord aussi. Par rapport à ce qu'il avait montré, où il avait pas été.
Où il était un petit peu fébrile.
Les notes un peu dures de la presse ce matin, parce que ils l'ont mis comme plus mauvais joueur du PSG. Bon, il faut toujours un plus mauvais. Ouais. Quand Rabiot est pas là, on sait pas qui prendre. Mais j'ai trouvé qu'il était monté quand même.
J'ai écrasé une note. Venir, ça me, je suis ému.
C'est vrai, j'ai trouvé qu'il s'était vraiment amélioré. Je vais pas dire encore qu'on dirait un milieu de métier, mais en tous les cas, il est monté d'un cran.
Moi, ce que j'ai l'impression quand même, c'est qu'il passe aussi un peu de temps ou avec Mota ou avec Verratti, mais il a dû regarder les matchs. Il se déplace à 10-15 mètres maximum de Verratti, ce que faisait Mota, en fait.
Oui,
c'était ça. Rabiot et Verratti ne savent pas le faire. Il s'est bien souvent assez allongé.
Il
était vraiment très proche de la zone de Verratti. Et on avait l'impression qu'il s'est fait 2-3 cassettes. Cassettes.
Des VHS.
C'est aussi téléchargement maintenant.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi pour ça que Thomas Tuchel compte sur lui. C'est parce que c'est un soldat qui va l'écouter, qui va tout donner sur le terrain, qui va essayer de respecter un maximum la tactique, les consignes données par Thomas Tuchel. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est utilisé au milieu de terrain. Et ça peut fonctionner.
Queen Bee, sur les réseaux.
Alors, on a différents avis. Avis sur la première période où il y a Globule qu'on salue. Fidèle, qui bien nous sûr, dit Verratti a été bien désastreux en première période, comme les autres d'ailleurs. Frédéric nous dit Verratti a souffert face au gros pressing lyonnais en première mi-temps. Et puis après, on a Drick qui nous dit l'avantage, c'est que Marco n'est pas encore à 100%, donc ça promet. Et Cédric nous dit Verratti revient à son meilleur niveau grâce à Tourelle et à une meilleure hygiène de vie. Assa Khaled répond Verratti est indispensable.
Il nous a dit dans Le Parisien qu'il amenait ses enfants à l'école le matin, qu'il se levait tôt comme tout le monde.
Oui, et qu'il n'y avait plus de coca dans le bus.
Voilà.
Et plus de dragibus non plus.
Non, mais Verratti, c'est un surdoué, on le sait. On l'a dit ici depuis que je viens dans cette émission, et ça fait maintenant un certain temps. On n'arrête pas de dire que ce mec-là est génial, sauf qu'il faut qu'il répète ce genre de performance très souvent. Bon,
bah, appelé en sélection, là, hier soir, appelé en sélection,
ça. C'était un bon soir. Hier soir, c'était un bon soir, effectivement. Ouais. Mais je trouve que tout le monde est un peu dur avec le PSG en cette première période. Faut pas oublier que PSG mène 1-0 dès la 9e minute. Et ça change peut-être tout dans la façon d'aborder le match.
Ils se font bouger comme rarement, quand même.
Mais ils se font bouger. Sauf
qu'ils craquent pas.
Ils craquent pas. Et le tableau.
Ils craquent pas parce que Maxwell Cornet n'est pas foutu de mettre un plat du pied devant Buffon.
Maxwell qui, c'est exceptionnel, ce joueur. C'est quand même le seul qui rentre.
Le remplaçant du remplaçant.
Le remplaçant et qui se fait remplacer. C'est génial. Félicitations
c'est
pour
rare,
sa prestation.
Ça arrive ce genre de situation. Mais
ce match, il est tellement dur à analyser. Il y a eu tellement de tournants. Il y a eu la blessure de Fekir. Que serait devenu ce match si Fekir était resté sur le terrain?
Il a eu
le raté de Cornet. Il y a eu éventuellement la semelle de Neymar qui certains réclamaient plus que le jaune. Enfin, voilà. Il y a eu tellement de tournants dans ce match qu'il est hyper dur à analyser.
Il y a eu
la main de
Di Maria aussi,
c'est vrai. Di Maria qui n'est pas réexaminé. Bon, voilà. Beaucoup de choses à dire. Mais globalement, je trouve que le PSG a été vraiment bousculé en première période.
En tout cas, pour Marco Verratti, c'est aussi un bon signe pour le PSG. On n'a déjà pas beaucoup de
milieu. Mais ça fait du bien. On a l'impression qu'ils reviennent tous de cure. Entre Neymar, Verratti, tu as l'impression qu'il y a la picousse de l'été. Et la bim, on les a bien rechargés comme il faut. À leur place, à l'aise. Et tu le sens même, tu sais, c'est très con ce que je veux dire, pardon, mais même sur leur visage, etc. Après, on en parlera, mais tu les vois ensemble dans des regards, etc.
Il se passe quelque chose.
En fait. Exactement, il se passe un truc.
Il se passe un truc. Il y a un espèce d'esprit collectif qui se met en place. C'est un fond de source qui est en train de se mettre en place.
Ils ont quand même dû s'analyser un tout petit peu. Il y a un moment où c'est quasiment la même équipe depuis 5 ans. Tu te regardes dans une glace et tu te dis, bon, bah maintenant, on fait tous les ans, on sort de poule avec tous les records, on tombe en 8e ou en quart. Il serait temps peut-être à un moment d'aller avec les gens qu'il y a dans cette équipe. Mais tu as une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Maintenant, on sait que le Delta, ça va être le caractère, ça va être la mentalité. Et ben, c'est ce qu'il faut changer. C'est peut-être ce que Tourelle va arriver à changer. Alors là, Paris est promis à des belles choses.
18h06 dans Tribune PSG, on fait la petite pause et le moment où on se retourne vers Émilie Ross, notre meuf de foot, pour savoir le coup de griffe, le coup de cœur. Qu'est-ce qui t'a plu cette semaine au Paris Saint-Germain? Peut-être, qu'est-ce qui t'a plu hier?
Alors, ouais, moi j'ai eu un coup de cœur hier, forcément, très basique. Bon, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais c'est la communion de tous nos joueurs avec les ultras qui sont effectivement, donc les joueurs ont été vers les supporters, ils ont chanté, ils ont dansé et tu vois sur leur tronche, enfin allez voir même sur les vidéos du PSG, le PSG a tweeté ces vidéos-là, tu vois des smiles, tu vois qu'ils se marrent, on a l'impression qu'on a gagné le match de l'année, ça dure, entre eux ils se marrent, on finit avec Neymar sur les épaules d'Mbappé, croyez-moi que j'aurais pas mis un billet sur cette scène et cette situation il y a 6 mois.
Bah oui, non, mais autant se le dire, on cherchait tous Neymar, en fait, pour voir s'il allait lui aussi être comme un enfant et communier avec les supporters. Et il était.
Bah, il était devant.
Vraiment, voilà, il était devant avec son maillot.
Voilà. Qui a donné le rythme, hein.
Et on a vraiment l'impression que. Je sais pas si c'est de la communication maintenant. Aujourd'hui, je pourrais pas dire si c'est de la communication. Mais en tout cas, si c'est de la communication, il le fait bien.
Alors,
c'est vraiment bien fait.
À noter une chose, vous l'avez vécu sur l'antenne de France Bleu Paris. La scène se passe comme ça. Je sais pas si vous avez pu le voir à la télé, mais tout d'abord, Neymar va sortir. Et va pour sortir. Ne va pas voir le public. Arrive Maxwell, qui lui parle, qui lui dit 2-3 choses à l'oreille, et là il repart. Tourelle va vers lui, et après ça s'enchaîne. Voilà, c'est le fonctionnement. Il n'était pas en train de bouder, je pense qu'il était vraiment dans sa bulle, genre bon bah voilà, le match est terminé.
Vous vous rendez compte le changement de comportement? Quand on se rappelle l'année dernière comment il sortait du terrain, c'est limite s'il saluait même le staff du PSG, et là maintenant il reste sur la pelouse. On le remet sur la pelouse et il participe à la fête.
L'affaire des sifflets, etc.
Il est même leader.
Juste, tu parles de communication. Et la communication, c'est pas toujours négatif, hein, mon sens. Hein. C'est quelque chose. Évidemment que c'est une mise en scène qui est extrêmement bien faite et qui est pas forcément, c'est pas un mauvais ressenti de la part du joueur. Ils le font pour certains naturellement, pour certains un peu moins naturellement. Mais voilà, moi je trouve que c'est une scène qui était très, très bonne à voir.
Quand t'es bien, t'as envie d'échanger, de communiquer. Quand t'es pas bien,
ça dénote aussi le fait qu'ils ont souffert pendant le match. C'est aussi pour ça qu'ils ont été fêter ce match comme ça devant les supporters.
Et surtout, c'est assez étrange parce qu'on critique ce PSG, on dit qu'ils prennent pas au sérieux la Ligue 1. Mais justement, quand ils arrivent à terrasser un concurrent direct, quand on les voit faire la fête comme ça, on se rend compte que finalement, peut-être que, il la joue à fond cette compétition.
Et il y a un groupe qui est en train de naître et on reviendra sur une scène aussi qu'on a pu voir justement par rapport à Thiago Silva. Mais d'abord, Émilie, avec les réseaux sociaux.
Il y a Alexandre qui était dans le COP et qui nous explique qu'effectivement, donc Neymar a donné son t-shirt, Mbappé a donné son maillot et Thiago a donné le brassard à Romain Mabile pour nous soutenir. Absolument. Donc pour lui, il dit que ça dégageait énormément de sincérité et en tout cas, c'était une belle
action. Mais il y a eu de la sincérité. Et alors, moment aussi important dans cet échange, c'est d'avoir vu la scène de Thiago Silva. Et là aussi, on en a pas mal parlé avec Eric Rabessandratana, notre consultant. C'est que Thiago Silva a demandé au staff et à Thomas Tuchel de venir avec eux pour saluer le public et faire le tour d'honneur et aller vers le cup. Alors, le staff est resté un tout petit peu en retrait, on laissait les joueurs partir devant.
Mais ils sont venus. Ouais.
Mais ils sont venus, il y avait tout le monde, tous les adjoints, les kinés, etc. Tout le monde était là, et il n'y en avait qu'un seul qui est resté, qui a observé toute la scène, mais lui il s'est fait un 180 voire 360 degrés. C'était Thomas Tuchel qui est resté près de son banc, et il s'est regardé tout ça, et je crois qu'il l'appréciait. Mais c'est vraiment Thiago Silva qui a dit à tout le monde...
Et Cavani qui était sous la douche.
Voilà, et à part ça, bon, lui, c'était trop tard, il avait encore du Tahiti douche.
Même si on peut comprendre sa frustration aussi, un jour, je dis pas ça pour le point.
C'est effectivement la question d'Augustin sur Facebook en disant, mais il était où Cavani?
Non, on peut comprendre qu'il soit aussi agacé. Il est sorti, sans râler, au moment de, après l'exclusion de Kimpembe. On peut comprendre qu'à la fin, il soit un peu frustré. Voilà.
Geste de Thiago Silva.
Très bien. Bah oui, ça prouve que ça.
Capitaine.
Ça prouve que
il se passe quelque chose.
Que c'est un capitaine, que le groupe vit bien et que l'ambiance a l'air excellente. Alors, dans la victoire, l'ambiance, elle est souvent excellente. Il faudra voir comment elle est dans la défaite, même si on ne souhaite pas qu'il y en ait. Il y en a eu une, déjà. Il y a eu Liverpool.
Ouais, l'ambiance est restée bonne après Liverpool, voilà. Malgré tout.
Exactement.
Donc, d'habitude, quand le PSG paume en Ligue des Champions, derrière, tu vois le mur qui commence à craquer et tu sais que ça va s'effondrer.
Franchement, tout le monde a changé, finalement. Et c'est peut-être ça. On dit Tuchel. Alors, est-ce que c'est Tuchel tout seul qui a changé tout le monde? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience collective? Probablement aussi, mais... Depuis le début de l'émission, on n'arrête pas de dire, ils ont tous changé en fait, et ils ont changé en bien. Donc Neymar a changé, Di Maria a changé, Verratti a changé, Mbappé a changé. Donc effectivement, quand tous ces joueurs-là, quand on voit cette addition de talent, Paris a une équipe pour gagner avec des champions. C'est pas une blague. Une vision seulement. Il y a pas de faille. Bon, un petit peu les latéraux. Et encore, tu te dis, si Kurzawa revenait à son meilleur niveau, si Daniel Alves challengeait un peu Meunier sur le côté droit, franchement, il y a de quoi faire une belle équipe. Ils l'ont. Allez au bout.
Et il y a Frédéric qui nous dit, d'ailleurs, Nasser est beaucoup plus discret.
Alors Nasser est sorti hier. Nasser
est quand même venu.
Il est venu profiter du record.
Il est sorti. Hein.
Il a que des ballons d'or. Dans sa team, lui, il a que des ballons d'or. Tout le monde ballon d'or. Cavani, Neymar, Di Maria, tout le monde est ballon d'or. Tout le monde, il les aime. C'était très drôle. Normal pour un président s'il mettait le pied s'il met le pied sur une mine en disant c'est Mbappé, rien d'autre là.
Il va même pas dire que Griezmann le mérite pas, parce qu'on sait jamais, sur un coup de nerf il peut très bien faire venir dans les deux ans qui viennent.
Oui, remplacer Cavani, et tu l'échanges,
sait-on jamais. Donc ça, il va pas se mouiller dans ce sens là
alors je sais que c'est la fête, je sais qu'on a envie de sourire, mais quand même on va parler des supporters, les amis, parce que il y a deux salles, deux ambiances. On a vécu un très très bon moment hier, le collectif Ultra Paris a mis une super ambiance du côté du Parc des Princes. Mais il y a eu mercredi soir avec des vieux démons. Une ambiance qui, moi, ça ne me manquait pas, je vous le dis. La porte de Saint-Cloud avec 25 000 quarts de CRS qui tenaient la porte de Saint-Cloud et la porte d'Auteuil. Et derrière, des Uluberlus, parce qu'il faut parler comme ça, qui sont allés faire la claque avec des supporters serbes. Bilan des opérations, 30 supporters ont vu leur abonnement suspendu, et je pense que c'est ad vitam aeternam pour le Parc des Princes. Autour de cette table, déjà, le ressenti de ce retour de ce mauvais moment. Moi, ça ne m'a pas plu.
Alors, il faut quand même juste rappeler qu'il y a aussi le collectif Ultra qui a fait un communiqué sur le sujet, en disant que, attention, il fallait effectivement pas généraliser, et je pense que c'est bien de le rappeler, que c'était effectivement des actes en interne, et ils vont essayer effectivement de régler tout ça.
Mais il faut, sinon ça va repartir en
voyage. Et puis on n'a pas envie de revivre des sales moments qu'on a déjà vécu, donc effectivement, ça craint. Après, c'est pas ce qu'on veut voir, et j'ai envie de dire pire, et c'est une putain, les gars, on gagne, quoi. Enfin,
c'est pas la question.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si tu cherches la merde, même quand il y a de la victoire, t'aimes pas le football.
C'est pas des supporters.
Oui,
ça m'embête toujours de parler de ça, parce que je trouve que des gens capables de faire ça au nom d'un match de foot, de toute façon, n'ont pas leur place dans une enceinte de foot. C'est pas ma vision du foot. Ça fait 50 ans que je vais au Parc des Princes, j'ai bien dit 50 ans. J'ai jamais tapé personne. J'ai été supporter de mon équipe comme personne. J'ai eu aussi 20 ans, hein, parce que dans les 50 ans, si vous faites... Même
c'est
si
vrai, il a eu 20 ans, c'est une information.
Il a eu 20 ans et il s'est jamais senti obligé d'aller taper sur les mecs d'en face, quel que soit le résultat du match, quelle que soit la justice, l'injustice, peu importe. Si j'avais de la violence à passer, je la passais pas là, je allais faire des cours de karaté, ça me détendait, voilà.
Et il avait beaucoup plus de cheveux à l'époque, je vous rassure.
J'ai envoyé la photo cette semaine.
On la sortira un jour. On se la garde. On a une petite conversation WhatsApp. On a commencé.
Le père spirituel d'Adrien Rabiot.
C'est ça.
C'est un chauve.
Dans le journal Le Parisien, Romain Mabi, le responsable et président du collectif Ultra Paris, est venu parler, effectivement, a souligné qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, etc. Mais quand même, cette histoire de supporters qui sortent 5 minutes avant, qui veulent aller chercher du CERN. Ça fait pas bon genre et c'était pas ce qu'on voulait. Et en plus, ça a tendu des crispations. Non, mais ça a retendu le dialogue en interne.
Ça nous a énervé, ça nous a moi-même personnellement choqué parce qu'on a vu des scènes qu'on n'avait plus vues au Parc des Princes depuis des moments très tristes de l'histoire du Parc des Princes. Romain Mabi est venu, heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont quand même mis du temps à s'exprimer. Il a quand même eu aussi un peu de mal au moment à reconnaître qu'il y avait des membres du collectif Ultra Paris qui étaient impliqués dans les bagarres. Heureusement, il l'a fait. Il a dit qu'il y avait des problèmes, qu'ils allaient les régler. Voilà, on attend une réponse ferme de la part du collectif Ultra Paris, de la part du PSG qui a déjà commencé à le faire, et de la part des autorités pour que ça ne se reproduise évidemment plus.
Pour ce garçon.
Pour Romain ?
Bah oui, parce que gérer ça, franchement, au lieu d'aller voir peinard son équipe de foot tranquille dans une autre tribune ou dans cette tribune-là, mais avoir tout ça sur le dos, avoir un nombre de gens à gérer qui sont finalement souvent des ingérables, mais chapeau. Chapeau, même si lui-même, de temps en temps, je sais, a pu avoir ou participer à des débordements. Mais quelle énergie il faut avoir pour gérer tout ça.
Sur Facebook, ça réagit beaucoup par rapport à ce sujet. Et tout le monde rappelle deux faits. Un, le fait que les Serbes aient pu effectivement accéder au stade et avoir des placements libres, du coup d'être un peu répartis dans toutes les tribunes. Et tout le monde nous dit que c'est quand même le problème numéro un. Et le deux, effectivement, tout ce qui est gestion de la sécurité, parce que effectivement, voilà, ça chauffait de tous les côtés.
J'ai beaucoup entendu, après, je vais essayer de pas trop m'énerver sur ce sujet parce que ça me touche vraiment. J'ai beaucoup entendu ce genre de propos depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Les Serbes étaient là. Il y a eu des saluts nazis, c'est vrai. Il y a eu des faits comme ça. Je ne vois pas du tout en quoi ça justifie le fait de sortir de 10 minutes avant la fin du match et de sortir pour aller se battre avec des supporters devant le stade. Ça ne justifie pas qu'il y ait 20 personnes qui se mettent sur un seul mec au sol pour le battre.
Tu as tout à fait raison.
Voilà. Donc,
c'est pas justifier les gestes des autres, mais t'es pas obligé d'aller tout casser parce qu'il y a des connards en face. Hein.
Et on en appelle au calme, bien sûr, dans cette émission. L'ambiance est tellement bonne. Quand tu vois ce qui peut se passer hier... Et quand tu vois ce que tu vois mercredi, voilà, tu te dis bon.
Eh oui, c'est deux salles, deux ambiances, les gars, sur la même semaine.
Deux salles, deux ambiances, c'est ça. Donc, nous, on aime et on préfère, bien sûr, l'ambiance d'hier et ce qui s'est passé.
Mais familles, en tout cas, voilà. Aux familles qui vont voir
moi, je vous
les
le
matchs.
Dis, voilà, pour avoir vu du monde en interne, ça a bien, bien crispé. Voilà. Il faut pas faire non plus trop de bêtises. Et là, je prends l'ensemble parce que quand on parle d'un collectif, oui, il y a plein d'obédience à l'intérieur. Mais voilà. Surtout, ceux qui sont à l'intérieur, pensez bien que il y a deux, trois personnes en interne qui sont toujours pas favorables à ce retour et qui ont dû mettre un mouchoir sur voilà leurs pensées sur ce retour-là. Donc dès qu'il se passe des choses comme mercredi, ils sont
encore
ravis
comme
pour
ça,
remettre le feu.
Bien
bah
sûr,
oui, c'est,
bah évidemment.
Et dernier petit mot, il faut surtout distinguer le fait qu'ils allument des fumigènes et le fait qu'ils aillent se battre en dehors. C'est deux problèmes.
Ah ouais, c'est deux problématiques
complètement différentes.
Rien à voir.
Qu'est-ce que ça peut donner d'ailleurs les fumigènes là?
Bah le huis clos, hein, ça va pouvoir aller jusqu'au huis clos. Il va falloir faire très attention à l'examen de l'UEFA après ce match-là, parce que le PSG a pris la responsabilité de replacer ses ultras dans d'autres tribunes alors que la tribune hôtel était fermée. Eux-mêmes ont pris la responsabilité d'allumer des fumigènes pendant le match alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Encore au moins 4 fumigènes allumés sur la fin. L'UEFA va examiner le cas du PSG.
Là,
ça peut évidemment aller jusqu'à
Liverpool
ou contre Liverpool.
Le PSG est fautif. Les fumigènes, je suis désolé. Évidemment. Moi, en tant que journaliste, on m'a fouillé hier comme si je transportais 2 tonnes de...
Mais ce qui s'était passé contre le Real Madrid en mars, c'était la même chose. Hein. Il y a plus de 100 fumigènes qui rentrent au Parc des Princes. Évidemment que le PSG est responsable.
Bah évidemment. Voilà. Donc il faut assumer. Mais l'UEFA rigole pas avec ça. Peu importe le nom du club, quand tu enfreins, Tu en feras.
Je vous vois réagir. Je sais que vous vous énervez, mais c'est un sujet important. Et ce serait vraiment trop bête de tout foutre en l'air. Moi, je vais être très clair. Tout foutre en l'air, je le dis comme je le pense, à cause de voilà, une trentaine d'excités, 40, 50, je ne sais pas. Mais à un moment donné, on se rappelle par le passé que justement, de ne pas avoir fait le tri, ben, ça nous a amené vers des situations terribles. Donc, on espère que ça ne va pas recommencer. On passe à la suite et on va parler de Neymar. Neymar avec sa semaine de patron. Neymar, une semaine de patron. J'aimerais juste, pour c'est l'image qui me revient de Neymar hier, c'est Thilo Kehrer qui monte sur un coup franc, qui veut monter. C'est un coup franc à 40 mètres. Voilà, il veut monter pour aller se mettre dans la zone dite de vérité pour essayer de faire un peu le poids. Et là, Neymar l'arrête, lui dit « tu retournes à ta place ». Il lui parle, il fait « tu retournes à ta place ». C'est le patron. On lui a demandé d'être le patron technique. Il est en train de prendre des responsabilités contre Nice, on l'avait vu, tonton.
Ouais,
et on est en train de le voir là aussi contre Lyon. Non,
le changement est tellement flagrant.
C'est violent quand même.
Ah ouais, ouais. C'est, il est passé de rien à tout. Mais c'est ce qu'on attendait à tout. Donc ben là, il est, je veux pas dire, il est quasiment parfait. S'il nous en fait une ou deux comme ça en Ligue des Champions face à Liverpool ou face à Naples, ben ça y est, on a retrouvé le joueur pour lequel on s'était tellement réjoui le jour où moi j'ai appris que Neymar signait au Paris Saint-Germain. Mais j'étais fou de bonheur. Et les gens ont cru qu'on le prenait en grippe. Mais on a été tellement déçus par ces six premiers mois que ça pouvait engendrer que ça. Mais ce mec-là est génial. C'est un génie du foot.
C'est un génie, bien sûr.
Bah, évidemment. Et Paris a une grande chance de l'avoir. Maintenant, il faut qu'il reste bien dans les clous et qu'il mène son projet jusqu'à la... au moins jusqu'à la fin de la saison.
Joss, le boss, entre Belgrade, tu es un boss. J'ai jamais dit le contraire. Mais Neymar, c'est encore plus le boss. Et on rappelle juste, hein, doublé contre Nice, triplé contre Belgrade, but hier contre Lyon, des passes, etc. Enfin bon, il a tout enchaîné, il a tout fait voler depuis quelques jours.
Bah, en fait, je pense que ça part aussi de son repositionnement. Parce que c'est vrai que Neymar, je pense qu'il est toujours pas à 100%. Toujours, hein, même s'il fait, il a des excellentes prestations, il est toujours pas à 100%. Et le fait d'être à gauche, ça l'obligeait à faire beaucoup plus d'efforts, aussi à défendre, parce que Tourelle, il veut que les ailiers défendent. Et je pense que Neymar, il, voilà, c'est pas quelque chose qu'il aime faire, défendre. Et en numéro 10, placé à ce poste-là, il est moins prévisible. Et surtout, il s'ouvre tout le terrain. Donc, il a la possibilité, avec sa superbe vision de jeu, de distiller des superbes caviars. Et on l'a vu avec un finisseur et un joueur hors norme comme Mbappé, toutes ces passes D, elles finissent au fond, normalement. Donc là, c'est vrai que le Neymar qui est de retour au PSG, il est super intéressant. Et je pense que si il continue avec ce type de prestation-là, il peut nous aider en Europe à gagner la Ligue des Champions.
Oui, il y a quelque chose sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il ne faut pas... mais il ne faut pas tout analyser sur les réseaux sociaux. Mais on voit moins les Toich, ces fameux copains. Ils sont moins en photo avec lui. On voit plus la vie du PSG. On voit Satan Dedrous qui est sur Paris. On voit son fils. Il a encore une belle image.
C'est les chewing-gums collés au basket.
Il y a quelque chose aussi qu'on ne dit pas. C'est que Neymar, il est arrivé l'année dernière en France. C'est vrai qu'on a été dur avec lui. On en attendait beaucoup parce que c'est vrai que c'est le prix, c'est tout ça. Mais le joueur aussi, il faut qu'il s'acclimate à sa nouvelle, à son nouveau pays, à ses nouveaux coéquipiers, à sa nouvelle vie finalement. Et peut-être qu'enfin, au bout d'un an, il se sent bien en France.
Moi, je pense que
au PSG.
Il l'a dit à sa conférence
de presse.
Et puis,
il y a son père, tout simplement, qui est très proche et qui, à un moment, quand même, il est aussi. Non, mais son père est son conseiller, son agent, plus que son homme de confiance. Et il est très influent dans sa carrière. Je pense qu'il lui a parlé.
Ah oui, bien sûr.
Cet été. Sûr. Pour lui dire, là, attends chérie, tu files un mauvais coton. Hein,
ouais, tu parlais du rôle de Neymar avec Kehrer, c'est marrant parce qu'il faut rappeler aussi qu'il est désormais capitaine du Brésil à 100%. Oui. Voilà, avec Tite, là, il y a deux matchs qui arrivent avec le Brésil, il sera encore capitaine. Donc voilà, même au Brésil, on lui donne plus de responsabilités. Ça doit aussi l'influencer à Paris. Et voilà,
c'est sûr.
Émilie, sur les réseaux sociaux, Neymar, le patron.
Eh bien, Neymar, si tu nous lis, ou en tout cas, conseillez-lui d'aller lire les commentaires, parce que alors là, mon gars, tu t'es jamais pris autant de compliments de ta vie dans cette émission. Il y a Max qui nous dit Neymar qui chante avec nous, les ultras, parce que Max est des ultras, c'est quand même pas rien. Cédric qui nous dit Neymar, il se sent de mieux en mieux et il sent qu'on peut gagner la Ligue des Champions cette saison. Samuel nous dit Neymar, leader, charismatique, brillant et altruiste, magnifique. Et c'est vrai que là, on le découvre, Neymar qui joue pas pour lui en fait.
Bien sûr.
Il joue pour les autres. Et alors ça, c'est quand même
c'est
nouveau,
sa plus belle semaine
en tout cas.
Depuis qu'il est au PSG.
Bah ouais. Il y a une chose aussi qu'il a dit, c'est que après sa blessure à Marseille, il a précipité son retour. C'est pour ça que sa Coupe du Monde, elle est aussi ratée, finalement. Et c'est normal. Une blessure, comme il a eu, c'est pas 4 mois. Et ensuite, on revient à la compétition. C'est pas possible. Il a précipité son retour pour jouer cette compétition qui lui tenait à cœur. Là, on a vraiment la sensation qu'il retrouve la possession de ses moyens. Un autre poste qui lui permet d'évoluer comme il le souhaite, de moins faire d'efforts, de plus axer sa vision de jeu. Et voilà.
C'est un numéro 10. Neymar.
Et alors, Neymar, en plus, apprend à ne plus avoir que la couverture à lui. On l'a lu dans le Parisien ce matin, parisien.fr, on salue la team du parisien.fr. Quand Kylian Mbappé ouvre la bouche, on l'écoute. En plus, il envoie des fleurs, il amène les bouquets, il fait la livraison, il fait tout ce qu'il faut.
Il avait ajouté que c'était un gamin pour qui il avait beaucoup de tendresse.
C'est ouais. Ça, un gamin pour qui il a... Bah oui, mais c'est parce qu'il se rend compte que finalement, voilà, quand on n'a plus le syndrome de Peter Pan et qu'on n'est plus trop couvé, on se rend compte qu'on a 25 ou 26 balais, qu'on peut prendre des responsabilités.
L'image pendant la fête, là, dans le virage hier, c'est Neymar qui est sur les épaules d'Mbappé.
Oui.
C'est le petit qui le tient.
Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est représentatif. Mais
bien
ça
sûr,
aussi.
Moi,
bien
sûr. Sur le moment, je me suis dit, mais bien sûr. C'est fou. Logiquement, c'est Neymar qui aurait dû être au sol et l'autre sur les épaules. Eh ben non.
Ça, mais les deux s'apprécient énormément.
Mbappé est un peu plus costaud, donc c'est aussi pour ça que
c'est symbolique aussi, je trouve.
Les deux s'apprécient beaucoup. C'est ce qui est finalement triste aussi.
Et le lien. Vous avez vu qui est le lien? Pour Mbappé et Neymar, vous avez vu qui a réussi à faire le lien?
Non.
C'est le fils
ah oui,
de Neymar.
Ah oui, effectivement, oui.
Le fils de Neymar, grand fan de Mbappé, qui a demandé une photo de Mbappé à son père pour l'emmener à l'école pour faire voir à ses potes.
Tu rentres à la maison et que t'as comme ton fils qui commence à te demander les autographes des autres joueurs, là, c'est pas bon.
Eh ouais, mais sauf que c'est son rôle de papa.
C'est Cristiano Ronaldo qui racontait un jour que son gamin lui avait dit un jour que son joueur préféré c'était Lionel Messi. Alors imagine la réaction quand t'es à la maison.
Sauf que là, au moins, ils sont dans le même vestiaire. C'est plutôt sympa. Oui, Émilie.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Joss, justement, il y a Benjamin qui nous dit Neymar oublie de jouer avec Cavani et ce sera le prochain problème de Tourelle.
Oui, c'est dicté, c'est acté, c'est le prochain problème du PSG. Cavani qui... Bon, moi je le dis, Cavani pour moi il doit aller au Real Madrid. Voilà. Aujourd'hui en plus, dans la situation du Real qui a besoin d'un buteur pour mettre des buts, il doit y aller, ça nous fera des liquidités et on achètera un joueur. Pas Suarez, mais type Suarez, Griezmann, qui sait jouer avec des idées techniques.
Alors, voilà. T'es gentil. Si jamais on fait un peu des ronds du côté du Paris Saint-Germain, message à Antero, tu vas pas acheter un attaquant.
Je
savais. Tu prends 6. Mais attends, tu gardes la monnaie.
À un moment donné, c'est les joueurs qui vont le dire. Ah,
ça sera
c'est Neymar qui le dira.
Je pense que ça sera plutôt l'Atlético. Je pense que dans son ADN, il a plus une tête.
Ou peut-être à l'Atlético.
Voilà, il a plus une tête de coach onéreux que.
Il pourra pas rester, Cavani. Il pourra pas rester. Tu sais, on en parle pas. Mais hier, quand il est sorti, on a vu son visage et il a tout intérieur. Il est resté calme, il n'a pas fait de... Il ne s'est pas énervé, il a serré la main de son entraîneur.
Il fera pas de toute façon, mais à un moment, il sortira.
Mais à un moment donné, ce n'est pas possible.
Arrêtez.
Il passe trop au second plan, avec Ibrahimovic, c'était déjà le cas. Là encore, c'est le meilleur buteur du club, pourtant.
Sébastien, est-ce que tu es aussi...
Sur Cavani ?
Ouais.
Bah, on le sait qu'il y a des problèmes techniques, tu l'as dit tout à l'heure Stéphane, on le sait que la relation entre les trois, elle est à deux cette relation.
Ça se voit,
c'est pas une question de remettre en cause son talent, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club.
Et pourquoi ça peut pas marcher alors?
Exactement. Mais parce qu'il est pas technique.
C'est un mec hyper attachant, on l'adore, c'est l'idole du parc, on lui veut que du bien, sauf qu'on se rend compte que dans cette façon de jouer, dans ce schéma, il apporte moins que quand il pouvait être le mec en pointe. Voilà, il est capable de tout transformer, il est moins bon dans la construction. Et Paris semble avoir besoin plus de joueurs capables de construire, de faire circuler le ballon. Parce
exactement.
Que quand tu es entouré d'Mbappé et de Neymar, forcément, il vaut mieux être à un niveau technique.
Et de vitesse aussi, tonton. Les
oui,
passes qui te
vitesse,
met Neymar. Je suis désolé, Cavani, il n'a pas la vitesse pour faire les courses que fait Mbappé.
Bah,
malheureusement.
Il en rate beaucoup d'ailleurs, il faut être honnête aussi.
Sébastien.
Une petite interrogation quand même sur la relation Neymar-Mbappé. J'attends de voir comment ça va se passer si Mbappé soulève le Ballon d'Or le 3 décembre. Voilà, c'est ma seule petite interrogation. Bah, est-ce que Neymar va accepter très longtemps
hein.
Ouais, mais est-ce que Neymar va accepter très longtemps d'être dans l'ombre alors qu'il avait déjà voulu quitter Barcelone parce qu'il était dans l'ombre de Messi? Voilà,
ah bah
c'est la seule interrogation.
Enfin, ils vont finir au moins l'année ensemble, quoi qu'il. Et puis après, bah, si vraiment il veut aller ailleurs et s'il veut aller. De toute façon,
vous
depuis
êtes en train de plomber, Émilie. Elle est en train de.
Mais attention, il faut bien préciser, on ne critique pas le niveau de jeu de Cavani. Mais Cavani, c'est un top buteur. C'est peut-être même un des meilleurs buteurs du monde. Il n'y a aucun débat là-dessus. Ouais, mais malheureusement, dans un schéma de jeu, il y a des joueurs qui ne rentrent pas dedans. Exactement. Et c'est même pas nous qui le disons, c'est les joueurs. Ça se voit. Neymar ne veut pas jouer avec Cavani. Et Mbappé non plus.
Mais est-ce que ça, c'est un vrai geste de patron? De se dire, je ne peux pas jouer avec ce garçon, ou en tout cas, je n'y arrive pas, ou en tout cas, on n'a pas du tout le même ADN.
Les choses se sont faites naturellement. Exactement. On dit toujours, tu t'assois au pied de l'arbre et t'attends que la pomme, elle tombe. Et à un moment, la pomme, elle tombe. Et là, moi, j'ai trouvé, c'était hyper, pour la première fois, hier soir.
Mais tu sais, on s'est jamais demandé comment la connexion Neymar-Mbappé s'est faite. Bah, c'est tout simple. Neymar, en fait, c'est comme nous. Il regardait les matchs ou sur YouTube et il a vu un phénomène dont il est tombé amoureux, tout simplement. Et ensuite, il a su que Kylian avait aussi la possibilité de signer, mais il se connaissait pas avant. Il se connaissait pas d'avant.
Ah, pour rappeler le petit historique, alors, quand Mbappé apprend que Neymar signe à Paris, c'est ce qui lui permet de se convaincre définitivement qu'il faut venir à Paris. Mais et à l'inverse, quand Neymar a signé, il a commencé à envoyer des petits messages à Kylian pour lui dire, alors, tu arrives quand? Est-ce que tu viens?
Les deux sont fans d'eux-mêmes, en fait.
Bah, oui, ça aide.
Non, j'ai plus envie de lire. Non, mais ce qui me rassure,
c'est triste. C'est vrai que c'est triste.
Non, mais ce qui me rassure, c'est que sur Facebook, c'est pareil. En fait, là, vous avez déclenché un gros débat. Je peux pas tout lire parce que il y a vraiment des gros débats. Il y a la team qui veut qu'effectivement Cavani reste et trouve une place parce que c'est notre joueur, parce que c'est un super buteur.
Voilà, mais
et il y a effectivement, et je pense que Richard résume bien en disant, ce n'est pas une sanction, c'est tactique.
Mais
au bout d'un moment, faut laisser partir Cavani.
Et d'ailleurs, le remplacement qu'il fait, Touré, pardon, c'est super intelligent parce que c'est ce qui lui permet aussi de prendre l'avantage sur Lyon, de garder ses deux flèches devant et de pas...
Et puis il y a une fluidité à partir de ce moment-là. Alors certes, il y avait 10 contre 10, mais quand même, c'est quelque chose...
Mais il aurait pu choisir l'inverse, laisser Cavani pour défendre et maintenir le 1-0. Il a choisi de continuer à attaquer.
Exactement.
Et c'est un vrai choix.
Ce serait bien de voir ce que ça aurait donné.
Bon, non, moi, le score d'hier me va très bien, personnellement.
Oui, non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que comme tout le monde change là, pourquoi la maillot, elle pourrait pas prendre?
Parce que je pense que techniquement...
C'est vraiment,
j'ai bien dit techniquement, oui, il est un peu plus limité que les deux autres à côté.
C'est un peu plus
qui sont des génies du foot.
De toute façon, c'est simple. Il suffit juste de regarder toutes les grosses équipes qui jouent avec deux ailiers. Le Real Madrid, ils n'ont pas de vrai neuf. C'est un faux neuf. Suarez, c'est un joueur très technique, pareil, quand il était avec Neymar et Messi. C'est un joueur très technique qui peut faire beaucoup de passes décisives, qui peut participer à la construction du jeu. Au Bayern, c'est pas pareil. Lewandowski, il sait jouer au ballon. Il n'y a que, voilà, en France ou au PSG, on a Cavani, qui est très limité techniquement et qui, avec deux ailiers, pareil, n'y arrive pas.
Ce qui va pas l'empêcher peut-être. Eric Choupo-Moting va venir se mettre entre
lui,
les deux.
Ah, lui, il était content. Il a pas touché un ballon, mais hier, il faisait la teuf avec tout le monde.
Mais il a été technique.
Mais oui, parce que son entrée face à Belgrade, je suis désolé, notre Choupo, il fait des appels.
Tourelle, il les connaissait, les deux qu'il a fait venir là. Et voire les trois. Il connaissait Kerrer, il connaissait Bernat pour l'avoir vu au Bayern, et il connaissait Choupo-Moting, évidemment.
Gaëtan qui réalise cette émission. Est-ce que j'ai le temps de lancer le débat? Je l'avais promis sur Kerrer ou encore Bernat.
Il vient de tomber dans les pommes.
Mais oui, bah attends. Et fan du Paris Saint-Germain, lui aussi, il a quelques années. Il a dit, il en a fait quelques-uns des déplacements et des matchs pour le Paris Saint-Germain et suivre le PSG de son cœur. Puisque tu parles de Bernat, Kerrer et Choupo. Alors, Choupo, vous le savez, on le donne rendez-vous le 15 octobre dans cette émission avec le futur président du fan club de Choupo-Moting. Et je peux annoncer désormais que c'est Julien Cazard qui sera dans cette émission et qui est un grand fan de Choupo. Et il l'a dit. Donc après, voilà, il va falloir voir si c'est une présidente ou un président.
Je l'avais dit avant quand même.
Voilà, on fera un vote.
Émilion Cazard, mais où
c'est ça.
Faut pas me copier tout le temps.
On fera un vote, Émilion, on fera un truc. On va essayer de trouver un système de vote. Bernat Kerrer, Bernat, moi je suis désolé. Je suis persuadé que ça fera la maille à un moment donné.
Ouais. Ah.
Non.
Non, je pensais que tu...
C'est très bon.
Ah,
c'est la réaction qu'on a en regardant le match de Bernat.
Ouais, c'est ça.
C'est exactement ça.
Écoute, moi, je pense que techniquement, il est d'abord, il est au-dessus. Il a comme
Kurzawa, il s'évadera pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est un guerrier. En fait, il est plus technique que Berchiche et il a la même mentalité que Berchiche.
Un Berchiche plus, exactement. C'est ça. Techniquement, beaucoup plus fort que Berchiche. Mais qui a la même niaque. Et c'est pas Alexandro ou un autre, mais ça peut le faire.
Messieurs.
défensivement.
Quand Joss se gratte la barbichette, tu peux te dire c'est pas d'accord.
Non, mais défensivement, c'est très faible. Honnêtement, Traoré, qui est pas non plus un incroyable, hier a beaucoup pris le dessus sur lui, je trouve. Non, mais quand tu vois que Traoré arrive à prendre le dessus sur lui, tu te dis en Ligue des Champions, qu'est-ce que ça va être, quoi.
Mais parce qu'il a pas encore assez de matchs. Nous, en tout cas, c'est ce que nous a dit notre consultant, qu'il a pas encore assez de matchs. Il commence à faire voir certaines choses de son jeu.
Vu la progression, ça veut aussi dire que ça ira mieux de match en match physiquement déjà. C'était son principal problème jusqu'ici. Il se faisait prendre dans le dos. Après, duel, s'il est mauvais, il est mauvais. Il va pas réussir à progresser défensivement. Mais non, n'empêche, moi, je suis assez d'accord avec toi, Bruno. Je pense que ça peut le faire pour tenir au moins cette saison.
Techniquement, il est intéressant.
Offensivement, en tout cas,
il a une qualité de centre assez sympa quand même.
Il y a une tête de Neymar là. Il y a un moment où Neymar s'est retrouvé surface de réparation à 6 mètres là. Si jamais c'est
Denayer
qui ne le sort pas, derrière ça fait ficelle. Oui, Émilie.
Il y a Globule qui nous dit Bernat ne deviendra jamais un bon joueur, il vole à chaque contact, pour rebondir sur ce que tu disais, Sébastien.
On a eu Lucas Digne, Globule. Alors comment dire, on a eu un poussin côté gauche.
Un jour, faudra
dès qu'il prenait un coup d'épaule, partait dans les panneaux.
Je vous propose une spéciale latérale gauche du PSG. Sur 30
et on invite Maxwell. Voilà, on fait une masterclass avec Maxwell.
Et Patrick Colter qui reste notre vénéré. L'homme qui a mis 6 ans pour progresser, mais il y est arrivé. Voilà. Au bout de 6 ans,
Bernat peut y arriver.
Il pourra y arriver.
Non. D'accord.
On peut rester sur les latéraux. Oui. Il y a Meunier aussi qui a fait un très bon match.
Justement, il y a Kesmir qui vient juste de poster et Meunier.
Ouais, Meunier qui a eu des difficultés quand il est revenu au PSG suite à sa Coupe du Monde. Je pense que
c'était un démarrage.
Un démarrage très poussif. Ouais, mais ils nous disent à chaque fois, tous les joueurs qui n'ont pas de préparation, ils ont énormément de mal. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je m'étais dit aussi pour Kylian Mbappé. Il n'a pas eu trop de vacances, il n'a pas eu de préparation. Alors des fois, il peut manquer de lucidité. Bon, il nous a fait mentir 15 minutes après. Mais en tout cas, Meunier, c'est vrai qu'il monte vraiment en puissance. Et limite, là, je me demande comment Daniel Alves il va faire.
Je me suis posé la même question pendant le match hier. Et je me suis dit, ça va pas être si facile que ça.
Il est
titulaire du 11 FIFA, donc ça devrait l'aider, hein. Quoi qu'il arrive. Non seulement ça, mais il est déjà élu pour 2018-2019, Daniel Alves, sans avoir joué. Il a déjà
trois fois ou deux. Voilà, défilé et concert.
Meunier, il va falloir tenir physiquement quand même, parce que après sa Coupe du Monde, là, il enchaîne tous les matchs. Il y a le petit Colin Dagba qui est blessé et qui va peut-être pas pouvoir le suppléer autant de fois que Tourelle l'aurait souhaité.
C'est pour ça que Daniel Alves
ne va revenir que mi-décembre.
Il va rentrer dans la boucle à partir de là. C'est une évidence, mais bon, ce sera quand même difficile d'aller déloger Meunier.
Oui, je pense là. Ouais.
Un dernier mot, Mini? Non.
On nous propose Cavani en arrière gauche.
Là, au moins, ça serait verrouillé. Je vais te dire un truc. C'est ça. Je pense que s'il avait sa place.
Non, faut respecter notre matador quand même.
Antoine nous fait une blague.
Voilà, on va terminer sur cette blague. Alors,
dernier petit mot. Ouais. S'il vous plaît, on aime Cavani. Moi, j'aime Cavani.
T'inquiète pas, ils vont être gentils avec toi.
J'adore ce joueur. Non, mais vraiment, j'adore ce joueur. J'adore tous les efforts qu'il peut faire, qui contribuent au rendement de son équipe. Mais voilà, c'est un choix tactique. Je rejoins Tuchel sur son remplacement d'hier.
Coach Joss a parlé.
Une petite pensée pour le mec qui sur Twitter m'a dit « On va vous faire pleurer comme City avant le match face à Lyon ». Alors, je lui dédie cette émission. Regarde.
Et moi, je dédie cette émission à mon ami d'enfance Nicolas, qui est venu spécialement de Lyon. Voilà, supporter de Lyon, m'a allumé toute l'après-midi pour me dire « On défoncer, c'est bien passé ». J'ai plus de nouvelles depuis 23h hier soir.
Voilà, non, mais le plus drôle, c'était la tête d'Olas à la fin du match. Malheureusement, il était... Je crois que même lui, il s'est dit « C'était beau, Paris, ce soir
». Bah oui, attends, il a assisté à un moment d'histoire. Avec un quadruplé en 13 minutes, on le voit pas tous les jours. Donc, on est content qu'il ait fait le déplacement.
Dernier mot, merci Monaco.
Monaco, ils sont pas très très bien. En tout cas, 17h37, pour Kylian, effectivement. Joss, prochain YouTube, l'Open Space.
Prochain Open Space avec SCH. Tonton a écouté son album en avant-première et il m'a dit qu'il avait apprécié.
Beaucoup.
Ils sont beaux les deux là. Sébastien Doratan.
J'y vais progresser. J'en suis à Dadju, il s'appelle.
Dadju, pas mal.
J'ai écouté, j'ai bien aimé.
Comme ça, Joss est en train de faire la culture rap de Stéphane.
Je me laisserai pas larguer par la musique. C'est par là que j'y suis rentré et je m'en sortirai par là aussi.
Sébastien Nieto, demain dans le Parisien.
Un gros dossier sur Mbappé et Neymar, évidemment.
Et Neymar, effectivement, le duo, le choc du Paris Saint-Germain. Ici, c'est France Bleu Paris, c'est demain matin, 8h10.
Ça pourrait bien parler de Di Maria.
Eh bah, très bien, dans le
Trelito.
Ouais. André, qui est capable de défendre, qui est capable de devenir milieu de terrain bientôt. Ouais, lui, pour être latéral gauche, si on lui demande, je pense qu'il y va,
voilà,
pour Thomas Tourelle.
Et puis il a changé lui aussi, et en bien.
En podcast et
on
sur
Dailymotion. On n'a pas le temps de gagner un quiz aujourd'hui ?
Non, bah, c'est clair. J'ai pas préparé.
Non, depuis qu'on les perd tous, on a arrêté le quiz.
J'ai été soudoyé, on m'a demandé d'arrêter le quiz.
On connaît Emily, du monde dans cette émission.
La meuf de foot, un dernier mot, il y en a un petit mot qui nous dit au revoir ou
Et ben, tout le monde nous salue, nous remercie effectivement pour cette émission. Et moi, je remercie effectivement tous les internautes sur Facebook de nous suivre. Vos commentaires sont géniaux et merci à tous parce que ça fait vraiment chaud au cœur.
Et puis, c'est des connaisseurs, faut le dire aussi.
Ouais. C'est vrai. Ouais. On les invitera un jour à venir ici.
Ah ouais. Mais c'est très pertinent.
On est en train d'essayer de faire 2-3 émissions qui vont être sympathiques. Ouais. Je vous promets. 18h39. Merci à Gaëtan qui a réalisé cette émission. On a une grosse pensée pour coach Manu, chef Manu, qui était en congé aujourd'hui. Lui, les petits matchs, les petits débriefs. Après Lyon, il n'est plus là. Tu vois, ça commence déjà à lâcher.
Ouais,
après 9 journées de championnat. Ça va pas du tout cette histoire.
Quoi, on fait, voyez.
Allez, ciao, bye bye. Merci les amis. Ciao.
Salut.